BFM Business. Good evening business. La grande interview, Thomas Asportas.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la grande interview de BFM Business. Dans Good Morning Business, et mon invité ce soir, c'est le président de Sisley, co-président du métier. Bonsoir Philippe Dormano.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de la grande interview. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser avec la crise énergétique et les nouvelles aides que le gouvernement a présentées, c'était jeudi dernier. L'actualité, Philippe Dormano, on en parlait dans le journal évidemment, c'est Duralex aujourd'hui, hein, Duralex qui, comme prévu, se met à l'arrêt aujourd'hui pendant 5 mois. Parce que l'énergie coûte trop cher et c'est loin d'être un cas isolé. On a beaucoup d'autres entreprises qui ont fait le même type d'annonce, un autre verrier, Arc, on a Aluminium Dunkerque, on a beaucoup de remontées comme ça. Est-ce que vous, dans les ETI que vous représentez, les entreprises de taille intermédiaire, vous avez aussi des patrons qui vous disent « j'arrête parce que ça coûte trop cher de produire et de travailler ».
Alors on a vu une enquête flash dans notre réseau d'ETI, assez large, qui porte sur près de 10% des ETI françaises.
Rappelez-nous, il y a combien d'ETI en France ?
5500.
Donc vous avez interviewé 550 ETI, ouais.
On a eu 550 réponses rapides,
ouais.
Et on a 50% des ETI qui pensent devoir réduire, être forcés de réduire leur activité, et 10% qui pensent l'arrêter.
Ah oui, alors mais ça c'est des chiffres inédits que vous nous donnez. Vous les avez jamais communiqués avant. Sur, d'accord, donc une ETI sur deux réduirait son activité, quoi, maintenant là ? Et une sur dix envisage d'arrêter son activité.
En fait, vous allez avoir 80% des ETI qui vont...
ça paraît énorme,
Vous avez 80% des ETI qui vont avoir leur contrat, qui vont se renégocier là dans les 3 derniers mois, leur contrat d'électricité.
D'accord.
Et à partir du moment où le contrat d'électricité se renégocie, et en fonction du tarif auquel il va se renégocier, ouais, elles craignent de devoir réduire,
ouais,
ou... pour certaines d'entre elles,
d'arrêter,
étaient touchées, d'arrêter leur activité. Et vous avez, vous le dites vous-même, des premiers exemples,
ouais,
d'entreprises qui annoncent des arrêts.
Oui, ouais, bien sûr, mais donc ça se...
On a des ETI, par exemple, qui, pour vous donner un ordre d'idée, que je ne vais pas citer, mais qui perdent, par exemple, 2 millions d'euros par jour.
Dans quel secteur ?
Dans les secteurs plutôt engrais, etc.
Ce qu'on appelle les électro-intensifs.
Voilà.
D'accord, 2 millions d'euros par jour.
Et donc, on est face à, et je pense qu'on est face à une crise qui est une crise... grave.
Ouais.
Pour nous, c'est une crise qui est d'une ampleur importante. On pense que c'est à peu près 50 milliards d'euros d'impact sur les entreprises françaises, la crise
de l'énergie. Voilà. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à ce chiffre ?
C'est un calcul qui est fait en fonction des consommations d'énergie. C'est une étude métier.
Ouais.
Vous détaillez les éléments, mais en tout cas, c'est 50 milliards d'euros d'impact
sur l'économie française.
Sur les entreprises françaises.
Sur les entreprises françaises. Et alors, du coup, parce que vous parlez, ça aussi, ça paraît énorme. 80% de vos ETI, là, doivent renouveler leur contrat d'ici à la fin de l'année, leur contrat d'énergie. Et alors, vous dites quoi ? Vous dites, comme le président, ça a beaucoup fait parler. Il a dit, ne signez pas. Attendez que les prix baissent, ne signez pas. Attendez les aides aussi, on va en parler. Vous dites la même chose, là ? Vous dites à vos adhérents, pour le moment, faut pas signer ?
C'est très difficile de savoir et de donner un conseil, puisqu'on a vu que les prix ont augmenté, on a vu que le gaz a rebaissé. En réalité, pour une entreprise qui a besoin d'une sécurité, comment est-ce que vous faites si vous signez pas un contrat ? Vous n'avez plus d'électricité. Vous pouvez signer des contrats à court terme ou à plus long terme. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, on est face à des entreprises qui ont des notes d'électricité qui se multiplient entre 5 et 12 fois.
Oui, 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 non, mais c'est les ordres de grandeur, effectivement, qu'on entend tous les jours ici.
C'est vraiment massif.
Oui, absolument massif. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que vous avez 10% de vos adhérents qui disent envisager d'arrêter leur production et 1 sur 2 qui envisagent de réduire la voilure. C'est quand même spectaculaire. 1 sur 10, c'est d'ailleurs pareil, ça me fait penser, la CPME, vos collègues de la CPME, donc les représentants des PME, disent aussi 9% des adhérents envisagent de... Donc c'est exactement la même
il y a pas forcément
la même épure.
Oui, une très grande différence, ça dépend des secteurs, mais entre une PME qui fait 30-40 millions d'euros et une ETI qui fait 100 millions d'euros... Bon. Vous allez avoir les mêmes... Du moment qu'elle consomme une part d'énergie, elle va se retrouver face aux mêmes difficultés.
Bon, ça fait froid dans le dos. Donc, il y a les entreprises qui arrêteraient, les entreprises qui réduiraient la voilure. Il y a les entreprises aussi qui réorganisent, qui essaient un peu d'improviser, qui réorganisent leur process. Mercredi soir, c'est Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui va se rendre en Moselle chez Ascométal et chez Setforge, parce que là-bas, ce qu'ils font, c'est de travailler de nuit, justement, à cause des prix de l'énergie. Ça, pareil, vous, les ETI que vous représentez, il y a des boîtes qui se sont un peu réinventées pour limiter la facture ? Qui ont complètement revu leur process ?
Je pense qu'on est... C'est une chose qui va se faire, puisque les contrats se renégocient maintenant, mais en tout cas, on va être obligé de se réorganiser de manière importante. Il va y avoir aussi d'autres impacts. Une ETI qui ferme, c'est tout un réseau de clients, de PME, de petites entreprises qui sont touchées. Puis ça va aussi avoir un impact vis-à-vis des donneurs d'ordre. Une ETI qui ferme ou qui arrête ou qui réduit sa voilure, c'est donc des produits qui ne sont pas livrés ou à des prix trop élevés. Donc on voyait une réindustrialisation se mettre en place en France et des circuits qui se revenaient vers l'Europe. Et là, on risque d'avoir un coup d'arrêt puisque cette crise, elle ne concerne, c'est l'un de ces problèmes, elle ne concerne que l'Europe.
Et alors justement,
c'est-à-dire qu'on va on risque de stopper la réindustrialisation vers le continent européen.
Est-ce que vos ETI peuvent délocaliser ? Parce qu'on voit des grands groupes maintenant qui disent ouvertement, bah oui, effectivement, la crise énergétique, elle est qu'en Europe. Donc moi, je vais aller faire fonctionner mes usines en Asie, aux États-Unis.
Alors dans un premier temps, je pense que ce qui va surtout, parce que la délocalisation, ça veut dire, ça prend du temps.
Ouais. Non, mais faire tourner des usines ailleurs.
Mais surtout, vous allez avoir des grands donneurs d'ordre qui vont acheter ailleurs. Qui vont acheter dans des pays où vous n'avez pas ça, où
vous n'avez pas. Vous pouvez pas, vous les ETI, vous n'avez pas des sites en dehors de l'Europe. Vous pouvez pas vous redéployer, faire des arbitrages, dire je vais.
Bien sûr, on peut, mais redéployer un site en dehors de l'Europe, ça prend du temps, ça prend un an, deux ans, trois ans.
Non, mais faire travailler davantage d'autres usines.
Par contre, ce que vous pouvez
mettre en veille des usines en France, c'est faire travailler d'autres usines ailleurs.
Ce que vous pouvez faire, c'est surtout acheter des produits. Or, si vous pouvez plus avoir les produits en Europe parce qu'ils sont plus livrés, parce qu'il y a des ruptures, ou parce qu'ils sont à des prix qui vous rendent pas compétitifs, vous risquez de voir de nouveau des circuits d'achat, alors que ça s'inversait, des circuits d'achat qui se dirigent plutôt vers les États-Unis, vers l'Asie, qui ont pas du tout les mêmes impacts énergétiques.
Tout à fait. Alors j'en profite pour vous dire que demain soir, à votre place, c'est le patron de Safran, Olivier Andriès, qui sera mon invité. Et la question se pose très clairement pour lui. Il dit, je devais ouvrir une usine dans la banlieue de Lyon, une usine de fabrication de freins carbone. C'est un investissement à 230 millions d'euros. Mais il met le projet en suspens à cause des prix de l'énergie. Et c'est loin d'être le seul. En Allemagne, c'est BASF dans la chimie qui dit, j'arrête en Europe, je vais davantage vers la Chine, etc. Donc, la situation préoccupante. Vous, d'ailleurs, je fais une parenthèse, puisque vous êtes aussi le patron de Sisley, la cosmétique haut de gamme, vous avez annoncé cet été doubler vos capacités de production en France, en Loire-et-Cher. C'est 35 millions d'euros, quand même, d'investissement. Vous maintenez cet investissement ?
Oui, on va maintenir. On espère.
Vous regrettez, vous n'avez pas des sueurs froides, là, quand on parle de cette conjoncture ? Oui, non, mais là, vous. Bon.
Mais
vous ne regrettez pas, non ?
On va maintenir parce que c'est un projet qui se place sur deux ans et demi. Et je pense que la politique énergétique, on tire les conséquences d'un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Pour le moment, on est dans une situation qui est difficile, mais on espère que revenir à une situation plus normale. On a vu déjà que les prix du gaz ont rebaissé après avoir monté très très fortement. Nous, on est des entreprises familiales, les ETI qui se projettent dans le temps long, et donc nos choix.
Non, mais pareil, vous pourriez juste mettre sur pause, quoi. Non, vous maintenez le calendrier prévu.
Oui.
L'investissement prévu. Et pareil, dans la. Ça, c'est pas très loin d'ici, en Île-de-France. Votre investissement en R&D logistique, 40 millions d'euros. Ça se fait quand même beaucoup, quasiment 100 millions d'euros pour vous, le ETI d'investissement. Ça aussi, vous maintenez ce projet de.
Oui, absolument.
Ouais. Oui. C'est pas remis en cause par la conjoncture.
En tout cas, pour le moment, pour nous, ce qui le remettrait en cause, c'est plutôt des difficultés de commerce international. La difficulté à se développer à l'international serait plus de nature à remettre en cause un projet comme celui-là. Par contre, nous sommes une marque. Ce qui nous inquiète, c'est la situation des ETI industrielles, c'est-à-dire de toutes les filières qui, elles produisent pour les marques, produisent pour et risquent de se retrouver. Vous avez cité l'exemple des verriers, on pourrait citer toute une série d'exemples dans l'industrie, et qui sont des entreprises qui vont être touchées, qui sont des entreprises des territoires, qui sont des entreprises dont l'emploi est dans les territoires, et qui sont des entreprises qui... pour lequel il y avait depuis 5 ans un effort qui a été fait pour retrouver la compétitivité française qui était assez décalé par rapport à l'Union européenne, et avec des résultats de projets, de relocalisation. 2021, ce qu'on avait constaté, c'était plus 40% d'investissement des ETI, 55 000 emplois créés. On voyait qu'il y avait un...
Juste l'an dernier ?
Juste l'an dernier, oui.
55 000 emplois créés dans les ETI ?
Okay. Et ce qui effectivement était un mouvement qui était positif. Et là, la crainte qu'on a, c'est que ce mouvement s'arrête, voire même qu'on reparte en arrière.
D'accord, donc vous êtes vraiment inquiet ce soir. Vous dites que cette crise énergétique, elle peut un peu détruire un peu de l'industrie en Europe.
Elle risque de toucher l'Europe assez fortement, et elle va toucher particulièrement la France, parce que l'écart de compétitivité en France reste encore très élevé par rapport au reste de l'Europe. Alors, on est tous touchés par la crise de l'énergie, on va l'être plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a deux gros décalages par rapport à l'Union européenne. Il y a une étude de Fipeco encore qui est sortie.
Oui, tout à fait, on en a parlé aujourd'hui, ce matin.
L'écart entre des charges sociales patronales est de 2,2 points de PIB. l'écart des taxes de production est de 2,2 points de PIB. On va traduire ça en français. Le PIB, c'est 20, un point de PIB, c'est 23 milliards. C'est 100 milliards d'écart sur taxation des entreprises françaises par rapport à la moyenne européenne, 150 milliards par rapport à l'Allemagne. Donc, dans ce contexte-là, avec cet environnement qui certes s'améliorait, l'écart s'est réduit depuis 5 ans, mais qui reste encore très fort, cette crise qui nous touche, elle va nous toucher plus durement que les autres.
Oui, bien sûr. Et bon, enfin, cela étant dit, pour l'instant, la croissance française tient encore. Tout le monde s'inquiète pour la récession, on devrait faire 0,2% en troisième trimestre, c'est pas mirobolant, mais ça craque pas, ça tient.
C'est-à-dire que les contrats se renégocient maintenant. On a encore des stocks. Quand vous allez arriver à une production avec un coût de l'énergie très fortement majoré, là vous allez brusquement avoir un mur de réalité qui va être extrêmement dur pour un certain nombre d'entreprises.
En réalité, donc ça veut dire que vous craignez le pire pour 2023. Le pire c'est maintenant, en gros.
Pour le moment, on est en tout cas face à une grave crise, comme on l'a été pour le Covid.
Ouais.
On est face à une grave crise, sauf que pour le moment, la mobilisation reste en deçà de la mobilisation qu'il y avait eu pour le Covid. Le coût pour les entreprises, c'est 50 milliards. Pour le moment, les plans qui sont annoncés, c'est 10 milliards.
Ouais.
Les contraintes de l'État français, en plus, sont très difficiles. Je ne veux pas sous-estimer les
contraintes budgétaires. Ouais.
Les contraintes budgétaires et surtout les contraintes européennes. Mais c'est vital de faire face à cette crise parce qu'une industrie détruite, ça va nous coûter beaucoup plus cher qu'un investissement pour y faire face. Pour y faire face dans le provisoirement.
Mais alors, justement, donc il y a ces nouvelles aides qui ont été annoncées, comme vous dites, 10 milliards d'euros. C'est surtout pour les PME, cela étant dit, pour les ETI, les grands groupes, il y a l'aide qui existe déjà, le fameux guichet, sauf qu'il ne marche pas parce que les règles européennes sont trop compliquées, c'est impossible de cocher les cases. Bruno Le Maire promet que ça va être simplifié drastiquement. Bon, des contacts que vous avez avec lui, avec Bercy, vous êtes confiant dans un guichet qui va marcher pour de bon? Vous êtes rassuré par les dernières annonces de Bercy ou vous êtes préoccupé? Et vous dites qu'effectivement, vous allez continuer à être un peu les laissés pour compte des aides.
Il faut saluer les efforts qui sont faits parce qu'il y a des véritables efforts et une prise de conscience de plus en plus forte qu'on est face à une situation grave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes européennes qui rendent la mise en place de ces dispositifs complexes. Et le troisième, c'est que pour le moment, ces dispositifs restent très sous-dimensionnés par rapport à l'importance de la crise et difficiles d'application pour les ETI. On espère que ça va se simplifier.
Bon, mais enfin, on a du mal à comprendre pourquoi. Parce que comme, effectivement, quand il y a eu la pandémie, tout le monde a réagi très vite, très fort, et ça a marché. Pourquoi est-ce qu'on ne refait pas la même chose, là? Pourquoi est-ce que c'est laborieux? Ça fait un an qu'on parle de cette crise.
Je pense qu'on a
pourquoi pas... est-ce que, comme vous dites, les aides sont sous-dimensionnées? Alors, peut-être parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses aussi. On a dépensé tellement dans le quoi qu'il en coûte que maintenant on n'a plus les moyens de à nouveau faire un deuxième.
Alors là, le problème, c'est que on parle de ce qui crée la richesse. On parle de l'offre. On parle de ce qui va générer des recettes fiscales, des emplois,
les entreprises
dans les territoires. Et si on n'investit pas dans cette période pour passer la tempête, comme d'ailleurs je crois le disait le président de la République. On va se retrouver avec une situation qui va être très durablement dégradée. On risque, nous, Français, d'être touchés beaucoup plus que le reste de l'environnement européen, parce que nos entreprises sont plus fragiles, parce qu'elles sont moins nombreuses, vous l'avez dit, les ETI sont moins nombreuses, et on risque de perdre toute une série de savoir-faire, alors même qu'on était...
Bien sûr. Mais donc justement, puisque maintenant tout le monde a bien conscience du danger, même s'il y a eu peut-être un petit retard à l'allumage, pourquoi est-ce que la réaction n'est pas à la hauteur du danger?
Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une...
Voilà, vous le dites, c'est 10 milliards, le quoi qu'il en coûte, je sais pas, c'était 150 milliards, ou enfin, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur.
Oui.
Et donc, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi est-ce que c'est compliqué comme ça?
Il y a deux problèmes, à mon sens. Le premier, c'est la volonté d'investir. C'est-à-dire l'idée que si vous investissez, vous allez avoir retour sur investissement. Donc, que le sujet n'est, quand on investit 50 milliards face à un transfert, finalement, de 50 milliards liés à l'augmentation du prix de l'énergie pour essayer de permettre aux entreprises de passer ce cap, c'est quelque chose qui va nous rapporter. C'est quelque chose qui va coûter budgétairement mais qui va rapporter et qui va nous permettre de poursuivre ce qui a été d'ailleurs entrepris depuis 5 ans. Puis le deuxième, c'est la contrainte européenne, c'est-à-dire l'idée que, pour l'Europe, de porter une véritable politique industrielle, une politique notamment pour les mid-size. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, et Métis plaide avec d'autres organisations européennes dans ce sens, c'est qu'on n'a pas de catégorie mid-size. Oui. Les aides d'État les aides d'État s'arrêtent aux PME et à chaque fois, dès qu'on dépasse la taille PME, ce sont
des 50
millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ouais, ouais.
Ce sont des négociations extrêmement compliquées qu'on a fait au moment du Covid,
de la pandémie,
mais sur lesquelles on a beaucoup plus de résistance à l'heure actuelle
cette fois-ci,
au niveau européen et qui est à notre sens une erreur parce que si l'Europe se retrouve avec son industrie fortement touchée, alors même qu'elle a déjà une très grosse différence énergétique par rapport aux autres zones du monde, c'est toute l'Europe qui va en souffrir.
Et donc là, vous dites qu'ils ne font pas le job, en gros. Enfin, vous êtes remonté contre les pouvoirs publics, contre l'Europe ?
Non, on appelle à une prise de conscience que la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire un mur de coût de l'énergie, peut avoir un impact durable sur l'environnement industriel européen. On le dit, on n'est pas les seuls à le dire, à peu près tous les industriels de tous les pays européens le disent.
Un appel à une prise de conscience, ça y est, maintenant, le message, il est passé. Voilà.
Mais si on n'a pas, face à cette crise de l'énergie, dont on nous dit qu'elle est provisoire...
Qu'elle
s'arrêtera un jour.
On ne
fait pas le nécessaire pour que notre environnement économique ne soit pas détruit durablement, on va se retrouver face à des graves difficultés.
On a le MEDEF européen Business Europe qui a alerté, encore tout récemment, qui parlait d'un risque imminent de faillite pour des milliers d'entreprises. Mmh. Bon, enfin là, le message, il est plus que passé.
Organisation, entreprise, économiste, tout le monde alerte. Mais maintenant, il faut qu'on prenne conscience que, un, il faut mettre en place une aide rapide, et deux, qu'elle doit être dimensionnée.
Bon. Donc vous dites que c'est 50 milliards en fait ce qu'il faudrait faire.
C'est
le choc pour l'économie française.
Le choc pour l'économie française.
50 milliards, donc il faudrait un bouclier à 50 milliards.
Et dans un environnement où, en plus, nous Français, on a encore un chemin à faire pour
retrouver
le niveau de concurrence.
Juste sur le volet énergétique. Vous parlez de concurrence, il y a les Allemands. Alors eux, les Allemands, ils prévoient 120 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires dans les 4 prochaines années, parce que l'économie allemande, quoi qu'on en dise, elle résiste, elle va plutôt pas mal, et ça va aider à financer le fameux plan à 200 milliards d'euros pour les ménages et pour les entreprises. Comment est-ce que vous regardez ce plan ? Est-ce que vous aussi, vous êtes critique ? Vous dites que l'Allemagne ne joue pas le jeu, est un peu déloyale en Europe, et que c'est de la concurrence déloyale de mettre autant d'argent quand les autres ne peuvent pas le faire ?
Moi, je pense que ce que je regrette, c'est qu'en France, depuis 30 ans, on n'ait pas mis en place une des conditions qui permettent aux entreprises de concurrencer l'économie allemande. On vous explique que les pays, on a trop peu de PME en France, que les entreprises françaises sont pas dynamiques. On a autant d'inventeurs, on a autant d'ingénieurs. On est dynamique. Par contre, on a pris toute une série de décisions qui ont fait que nos entreprises n'ont pas pu se développer comme elles l'auraient dû. On est en plus extrêmement bien placé dans l'environnement européen. On a 3 façades océaniques.
Non, mais ça, c'est sur la compétitivité du tissu industriel. Oui. Mais vraiment sur ces aides ponctuelles face à la crise de l'énergie. Est-ce que vous dites que les Allemands sont déloyaux?
À partir du moment où les Allemands...
Qui jouent pas le jeu du marché européen.
À partir du moment où les Allemands défendent leur industrie. Ils défendent leur économie. Ils ont été bien gérés. Ils ont permis à leur industrie de se développer. Ils ont créé les conditions, quand on est rentré dans la monnaie unique, de permettre à leur industrie d'être compétitive. Rappelez-vous, à cette époque-là, ils ne l'étaient pas. Il y avait la réunification allemande. Ils ont fait les efforts. Ils en touchent le résultat. Et nous, quand on est rentré dans l'Union européenne, dans la monnaie unique, on a au contraire augmenté les taxes de production, bloqué les transmissions d'entreprises. Mmh. On se retrouve donc avec peu d'ETI, alors même qu'on est un pays créatif, dynamique, etc. Et qu'on pourrait.
Bon, vous dites qu'en gros, les Allemands sont dans leur bon droit. Ils défendent leurs intérêts.
Chaque pays défend ses intérêts. Et je pense que plus globalement, on devrait d'ailleurs défendre les intérêts des entreprises européennes, parce qu'il faut se considérer comme un bloc européen.
C'est ça la critique qui est faite aux Allemands, c'est qu'ils ne raisonnent pas européens. Ils disent quand vous faites ça, ça va pénaliser toutes les ETI autour de vous.
Une ETI française, elle achète des composants à des entreprises allemandes, à des entreprises italiennes, à des entreprises de toute l'Union européenne. Mmh. On est tous liés, notre destin est lié. Nous, ce qu'on a intérêt à faire, c'est, face à cette crise, collectivement défendre notre industrie de manière à pouvoir passer ce cap et qu'on nous annonce d'un an et demi, 2 ans, et sans que notre industrie soit durablement mis en danger.
Et si les entreprises allemandes sont mieux défendues, Vous craignez pas, je sais pas, des raids d'ETI allemandes sur vos ETI à vous, les ETI françaises?
Oui, alors ça c'est un autre point, c'est que
ce serait la suite,
allemande
la
ou américaine ou chinoise à partir du moment où nos
entreprises... Oui, mais eux ils sont juste à côté, de l'autre côté de la frontière, donc on les connaît bien.
Les Américains ont une monnaie qui maintenant est très forte.
Oui, bien sûr.
Les Chinois ont des intérêts. À partir du moment où vous avez une économie qui est effectivement affaiblie, il y a déjà d'ailleurs un certain nombre de ventes qui se font. Vous avez déjà à peu près une vingtaine d'ETI qui sont vendues dans le dernier trimestre.
Ah oui.
Donc vous allez avoir
là au troisième trimestre une vingtaine d'ETI françaises.
Ah oui. Et ça c'est que le début de ce que malheureusement on peut craindre si on défend pas notre économie, notre industrie.
Et c'est un chiffre qui n'est pas du tout habituel, ça. Qu'une vingtaine d'ETI se vendent là, c'est pas du tout normalement. Les ETI se vendent pas.
Alors, si,
ou très peu, enfin.
Il y a des ETI qui se vendent, mais là, on constate.
C'est un chiffre qui n'est pas dans la norme.
On voit une montée du nombre d'ETI sollicités, approchés, vendus. On avait, je crois, 10% des ETI ont fait l'objet de propositions d'achat, etc. Et si vous vous retrouvez face à une situation économique qui est difficile, vous risquez d'avoir ce qu'on a déjà connu à d'autres époques, notamment quand les transmissions d'entreprises étaient bloquées en France, un nombre important d'ETI qui se vendent, malheureusement, souvent à des entreprises étrangères.
Il nous reste 2 minutes. Philippe Dornano, vous parlez de la compétitivité, évidemment. C'est l'un des chevaux de bataille du métier. La baisse des impôts de production, donc le travail est enclenché. Il y a eu 10 milliards d'impôts supprimés dans le plan de relance. Il y a 8 milliards avec la suppression de la CVAE l'année prochaine, 2024. Mais on n'ira pas plus loin. Là, vous avez fait le deuil de ce que vous disiez, enfin, et pas que vous, hein, il faut aller plus loin, rattraper le retard face à l'Allemagne. Mais vu l'état des finances publiques, vu l'état, le coût de la dette, etc., maintenant, l'État, il peut plus aller 1 euro plus loin. C'est terminé.
D'abord, la baisse des taxes de production, ça génère un retour sur investissement. Ça génère plus d'entreprises.
Oui, oui. Bruno Le Maire, il en est convaincu.
De la base fiscale.
Mais le coût immédiat.
C'est qu'en 2023, la CVAE va baisser donc de 4 milliards. Mais il est probable que les taxes de production ne baisseront pas.
Comment
ça? C'est 250 taxes. Elles sont basées sur les taxes. Une partie, c'est le foncier. Il va probablement augmenter de 7%.
Ouais.
La deuxième partie des taxes de production, le deuxième tiers, il est basé sur la masse salariale. Donc avec l'inflation, ça va augmenter probablement de 5-6%.
Mm-hmm. D'accord.
Donc on va se retrouver, donc vous faites le calcul. En réalité, il est probable que les taxes de production ne baissent pas en France, qu'elles soient stationnaires.
L'année prochaine.
Oui.
Intéressant, effectivement, là, quand on rentre dans le détail. Allez, 1 minute pour parler de votre entreprise, Sisley. Dans la conjoncture, on parle de l'inflation. Est-ce qu'il y a des arbitrages anti-cosmétiques? Enfin, est-ce que la cosmétique fait les frais de l'inflation ou pas?
Pas pour le moment. Vous savez, la cosmétique, vous connaissez le fameux lipstick effect. Comme c'est un produit qui fait se sentir bien, en fait, en période de crise, souvent les gens continuent à l'acheter parce que justement...
Ça redonne le moral.
Ça redonne le moral.
Ah, d'accord.
C'est un produit, le produit cosmétique qui donne de la confiance en soi, qui donne du moral, qui apporte beaucoup. Moi, j'ai commencé chez Sisley, j'étais représentant dans l'entreprise, je tournais dans les parfumeries. C'est très... humain, la cosmétique, et donc ça résiste assez bien aux crises.
Ouais.
Par contre, ce que je constate, c'est que pendant 35 ans, le monde s'est ouvert et que pour la première fois, il commence à y avoir un certain nombre d'inquiétudes sur l'ouverture mondiale. Et ça peut effectivement impacter l'industrie cosmétique si ça se confirme. Ce monde qui s'ouvre, c'est aussi un monde qui s'est enrichi. Il faut espérer qu'on reste dans un monde libre et ouvert.
À commencer par la Chine, évidemment, là, qui en ce moment n'en finit plus avec ses confinements, et c'est un gros marché, bien sûr, pour la cosmétique et le luxe que vous représentez. Merci beaucoup, Philippe Dornano, d'avoir répondu à mes questions ce soir dans la grande interview de BFM Business. Votre interview à retrouver, évidemment, en ligne, en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous à demain, même heure, 19h30 sur BFM Business, et je recevrai donc Olivier Andriès, le directeur général de Safran. On parlera, bien évidemment, aussi avec lui de la crise énergétique et de l'impact pour son groupe, même si le secteur aérien, vous allez voir, va quand même beaucoup mieux et a à peu près tourné la page de la pandémie. Voilà, rendez-vous donc demain soir dans un instant, 20h sur BFM Business, toute l'actu de la tech. Tech & Co, François Sorel, très bonne soirée, à demain.
Good evening business, la grande interview.